Spotify se diversifie. Alors au départ, on pouvait juste écouter de la musique, juste avec des guillemets. Et puis sont arrivés les podcasts, toujours sur Spotify. Aujourd'hui, la plateforme s'ouvre aux livres audio. D'abord dans les régions anglo-saxonnes et maintenant, depuis fin 2024, en France et dans le Benelux. Alors qui sont les gagnants, les abonnés, les auteurs, les éditeurs, éditrices? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la grande gagnante de cette histoire, c'est sans conteste la plateforme elle-même. Louis Houillard, bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler avec vous justement de cette industrie, cette diversification de Spotify. Alors d'abord, est-ce que c'est juste qu'au départ Spotify c'est juste entre guillemets évidemment une plateforme musicale?
Alors en fait Spotify c'est au départ une plateforme musicale effectivement. Et puis Spotify va à partir de la fin des années 2010 diversifier son offre en direction d'autres types de contenus sonores. D'abord le podcast, comme vous l'avez dit, avec pour objectif en fait d'essayer d'équilibrer son modèle économique. Parce que le problème de Spotify historiquement, c'est que c'est une entreprise qui n'a pas un modèle économique solide jusqu'à tout récemment. Parce que quand vous écoutez de la musique sur Spotify, ça génère bien sûr des revenus liés à la publicité, liées aux abonnements. Et il faut savoir que Spotify reverse les trois quarts de ses revenus aux labels de musique, aux studios musicaux, aux majors du disque en particulier. Et donc, le quart restant permet de faire vivre la plateforme, mais ce n'est pas suffisant. Du coup, Spotify a essayé de se diversifier en direction d'autres types de contenus sur lesquels Spotify pouvait capter une plus grosse part de la valeur économique. Ça a été d'abord le podcast à la fin des années 2010. Ils ont racheté des studios de production, etc. Et puis maintenant, voilà, au milieu des années 2020, ils se lancent effectivement dans le livre audio. Avec cette idée d'à la fois donner plus de contenu aux abonnés, finalement, pour rendre la plateforme plus attractive, plus différenciante par rapport à la concurrence, justifier l'abonnement, les fidéliser, les garder, les conserver, mais aussi avec l'idée que de capter une partie plus importante de la valeur économique dans les rapports qui lient Spotify avec les maisons d'édition.
Alors, Louis Houillard, on a oublié de dire que vous êtes donc professeur à l'ULB en communication et spécialiste même des industries culturelles. On vous a déjà reçu d'ailleurs sur cette antenne pour parler des différentes plateformes. Donc aujourd'hui plutôt Spotify. Donc Spotify, il y avait Deezer aussi à l'époque. Ça fonctionne un peu comment cette plateforme et puis un peu son historique, même si vous l'avez déjà un peu abordé.
C'est une plateforme d'origine suédoise qui a maintenant une vingtaine d'années. Comme je disais, du point de vue du modèle économique, c'est une plateforme qui n'a jamais été rentable jusqu'à cette année. C'est la première année que Spotify est rentable. Spotify va réaliser ce tour de force qui a été de convaincre finalement les acteurs de l'industrie de la musique qu'un modèle économique était possible dans l'environnement numérique associé au streaming. Il faut savoir que dans les années 2000, on a une crise du disque, on a le piratage qui explose. On a à ce moment-là un seul modèle alternatif au piratage, c'est le modèle d'Apple qui est le téléchargement à l'unité de morceaux de musique vendu 2 euros pièce environ, mais ça reste un petit marché assez contenu. Et donc quand Spotify arrive à la fin des années 2000, c'est un nouveau modèle de la consommation en streaming de manière illimitée, avec soit la possibilité finalement d'écouter de la musique avec de la publicité, et à ce moment-là l'écoute se fait de manière gratuite, soit la possibilité de souscrire un abonnement, et à ce moment-là vous vous débarrassez de la publicité, vous avez accès aussi à d'autres fonctionnalités supplémentaires en tant qu'usager. Mais vous pouvez écouter, voilà, comme bon vous semble, les contenus sur la plateforme. Et donc Spotify a prospéré au cours de ces années, a convaincu les majors du disque et même les labels indépendants, tout le monde finalement, de diffuser leur musique sur la plateforme. Et Spotify n'a jamais été rentable jusqu'à récemment. Et c'est vrai que le tournant, la diversification de Spotify vers d'autres types de contenus sonores comme le livre audio, c'est une des raisons qui explique qu'aujourd'hui l'entreprise a pour la première fois atteint son seuil de rentabilité, en l'occurrence au cours de l'année 2024. L'autre raison, c'est que Spotify aussi a réalisé des coupes importantes dans ses effectifs et a rationalisé ses dépenses, a licencié un certain nombre de membres de son personnel et ça a permis aussi là de faire des gains substantiels.
C'est dingue parce qu'on entend quand même beaucoup de gens qui sont abonnés ou qui écoutent via Spotify. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce n'est que maintenant qu'elle est rentable ?
Parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans pour qu'une plateforme de streaming musical soit attractive, elle doit accueillir la musique des artistes les plus populaires, pop, rock, rap, etc. Beaucoup de musique urbaine, hein, sont les artistes les plus écoutés sur une plateforme comme Spotify. Or, ce sont des artistes qui sont diffusés par des majors du disque, comme Sony, comme Warner, comme Universal, hein, sont les trois majors en place, les plus puissantes. Et ces majors du disque sont en position de force et ont pu négocier des conditions commerciales qui leur sont plus avantageuses. C'est un peu elles qui dictent un peu les lois sur le marché de la musique. Et du coup, Spotify, eh bien, sur un abonnement, ne capte qu'une valeur limitée, environ un quart de la valeur de l'abonnement, ce qui n'est pas suffisant, jusqu'à récemment en tout cas, ce qui n'était pas suffisant pour l'entreprise pour couvrir ses frais.
Et donc voilà, on le voit hein, économiquement comment ça marche. Donc on a finalement une formule de consommation illimitée, comme vous l'écrivez dans votre note par rapport à l'arrivée du livre audio, enfin des livres audio sur Spotify dans The Conversation. Donc la rémunération aussi par rapport aux auteurs, enfin qui est rémunéré là-dedans, ce sont et on en reviendra aussi par rapport aux livres audio, mais là généralement qui est rétribué là-dedans, ce sont les maisons de disques, ce sont les artistes directement.
Alors en fait, le problème de Spotify, mais du streaming musical d'une manière générale, et c'est important de partir de là parce qu'on va voir que dans le livre audio c'est différent, parce que les éditeurs ont négocié d'autres conditions commerciales, justement parce qu'ils ont bien vu que dans le streaming musical, ça marchait pas. Le problème, c'est qu'en fait, les artistes sont rémunérés au prorata des écoutes réalisées sur la plateforme, c'est-à-dire que vous êtes un artiste, vous êtes écouté sur Spotify, et pour savoir ce que vous allez gagner, eh bien, on va calculer le pourcentage d'écoutes que vous avez généré par rapport au pot commun de l'ensemble des écoutes. Ça signifie qu'en fait, un stream sur une plateforme comme Spotify, mais les autres plateformes sont à peu près équivalentes, ça génère en fait très très peu d'argent, quelques centimes pardon, d'euros par stream. Et donc ce sont que les artistes les plus populaires qui sont capables de générer beaucoup d'écoutes et donc beaucoup de revenus. Donc si, je sais pas, Beyoncé génère 10% des écoutes sur Spotify, Beyoncé va capter 10% des revenus associés à la plateforme. Donc c'est ce modèle-là qui s'est imposé. C'est un modèle qui est très défavorable aux artistes et dans lequel en fait les principaux bénéficiaires ce sont plutôt les majors du disque et Spotify.
Donc voilà, c'est que vous notiez hein, 1% des artistes concentrent 90% des écoutes et donc ça va pas directement chez les artistes ou ça va directement dans la poche des labels plutôt?
Ben, ça passe par les labels. Donc après, il y a les artistes indépendants aussi. Donc là, ça dépend un peu de la manière avec laquelle ils diffusent leur musique. Mais ça va être label et artiste. Et puis sinon, s'ils sont indépendants, ils sont rémunérés directement. Mais ce modèle-là, il est désavantageux parce que on n'a pas une rémunération qui est fixe par rapport aux morceaux de musique. C'est-à-dire qu'en fonction de combien il y a eu d'écoutes sur la plateforme, d'une manière générale, d'une manière globale, plus il y a d'écoutes sur la plateforme, moins l'écoute générée par votre musique à vous va provoquer des revenus. Moins les revenus seront élevés pour votre écoute. Et à ceci s'ajoutent d'autres difficultés. Par exemple, vous avez une multiplication sur ces plateformes de contenus parasites. C'est-à-dire des contenus comme du bruit. Donc des gens qui vont produire des contenus qui ne sont pas de la musique, mais qui vont des bruits d'aspirateur, des bruits de micro-ondes, ou des contenus générés automatiquement par l'intelligence artificielle, qui sont destinés à générer très très peu d'écoute, mais qui tous mis bout à bout permet à ces personnes-là de dégager un petit peu de revenus. Le problème ici, c'est que ça dilue finalement l'enveloppe financière globale dans de plus en plus de contenus et dans de plus en plus d'écoute, et ça vient du coup diminuer d'autant plus la rémunération des vrais artistes musicaux.
Ah oui, c'est pernicieux ça.
Oui, bah, du coup, les plateformes, bah, comme en plus, ça dégrade aussi l'expérience utilisateur. Depuis quelques années, 2-3 ans maintenant, elles tentent de mettre en place des dispositifs pour fliquer ces contenus-là et les supprimer de leur plateforme parce qu'effectivement, c'est négatif pour tout le monde et pour les artistes et pour les utilisateurs qui se retrouvent à écouter des contenus peu pertinents.
Alors le Oui-Oui-Art, ce fonctionnement donc de la musique, vous l'avez dit, n'intéresse pas les éditeurs et les éditrices de livres. Alors comment ça va marcher pour pour les livres audio?
Alors en fait, quand vous êtes abonné à Spotify, donc vous payez 10 euros par mois, ça vous donne accès à une offre de livres audio. Et surtout à ce qu'on appelle un créditant, c'est-à-dire vous pouvez consommer 12 heures de livres audio, j'allais dire gratuitement, en tout cas c'est compris dans votre abonnement, 12 heures de livres audio. Donc la consommation elle est limitée dans le temps. Si vous voulez consommer davantage que 12 heures pendant le mois, eh bien vous devez acheter du temps supplémentaire. C'est limité dans le temps, mais c'est illimité dans le choix. Donc vous pouvez écouter 10 minutes d'un livre, une heure d'un autre, etc., passer de l'un à l'autre, tant que vous restez dans les 12 heures d'écoute qui sont prévues par l'abonnement. Donc ça c'est le premier point. Ce qui est intéressant pour les maisons d'édition ici, c'est que la rémunération qui est prévue, du coup, elle est fixe au titre. C'est-à-dire que les maisons d'édition vont négocier, alors là, ce sont des négociations avec la plateforme, donc les grands groupes éditoriaux négocient, et puis nous, on n'a pas accès à ça, mais l'idée, c'est qu'elles essayent d'obtenir une rémunération quand vous écoutez un livre audio, eh bien qu'elle soit rémunérée de la valeur au moins d'un livre de poche. Hein, donc voilà, autour d'une dizaine d'euros. Donc quand votre livre a été écouté l'équivalent d'une fois, mais même par plusieurs personnes, donc il suffit que ce livre ait été écouté une heure par une personne, deux heures par une autre, et que l'ensemble génère une écoute, eh bien ça génère une écoute et ça déclenche la rémunération de la maison d'édition qui est fixe au titre.
C'est ça, donc c'est par le temps aussi. Donc là, on reste aussi dans une notion de temps, de durée. Donc si le livre fait 10 heures, eh bien ce n'est qu'au bout de 10 heures d'écoute de ce titre-là que la rémunération sera faite.
Exactement. Il faut, mais 10 heures d'écoute qui peut être dispersée sur plusieurs personnes à plusieurs moments. Donc effectivement, c'est le temps d'écoute, mais c'est surtout que la rémunération du titre est définie dans le cadre d'une négociation entre Spotify et les maisons d'édition, donc qui s'entendent avec Spotify pour dire une écoute, ça génère c'est 10 euros, voilà, mettons. Alors que dans le cadre de la musique, les maisons de disques n'ont pas la main, c'est-à-dire où les créateurs non plus, c'est une écoute, elle m'est rémunérée en fonction des écoutes globales. Si les écoutes globales ont explosé, ben mon écoute qui était payée 5 centimes, d'un coup elle va passer à 1 centime. Voilà.
Ils doivent s'en mordre les doigts.
Bah, en tout cas, c'est un système qui est très discuté, contesté. Il y a d'autres modèles alternatifs dans le domaine de la musique qui sont en cours de réflexion. Il y a une étude du Centre national de la musique en France qui a réfléchi à un modèle qui serait plus basé qui serait plus favorable à la rémunération des artistes, où finalement, quand vous souscrivez un abonnement, vous pourriez rémunérer directement les artistes que vous écoutez réellement. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que moi, si j'ai un abonnement que j'écoute que du jazz, je vais en fait assez peu rémunérer des artistes de jazz via mon abonnement parce que c'est dilué dans des écoutes beaucoup plus globales dans lesquelles le jazz ne pèse pratiquement rien. Donc il y a des discussions qui n'aboutissent pas forcément. Il y a aussi des projets rien de très concret, mais on en parle de plus en plus, d'éventuellement régulation au niveau européen. Du château fort.
Mais donc là, justement, les éditeurs de livres, finalement, s'en sortent plutôt pas mal. Ou ça reste quand même quelque chose qui va être... où ils vont y perdre.
Alors, à court terme, c'est plutôt une bonne nouvelle qui a été plutôt bien accueillie par les maisons d'édition, parce que ce qui faisait peur aux maisons d'édition, c'est les modèles illimités. Ils ne voulaient pas un modèle illimité, ils voulaient un modèle qui soit bien limité dans le temps, et ils ne voulaient pas un modèle où la rémunération serait diluée dans un pot commun. Donc, ils ont obtenu ça. Le modèle de Spotify, il présente différents avantages pour les éditeurs. Je disais, la rémunération fixe au titre, c'est un avantage important, parce que produire des livres audio, ça coûte très cher. En fait, il faut un studio, il faut des comédiens, il faut des moyens pour produire, pour monter, etc. Donc c'est assez coûteux, donc ils ont besoin d'avoir cette garantie financière derrière. La rémunération fixe au titre aussi, ça permet de pas d'évaluer excessivement le livre audio. D'un point de vue de sa valeur symbolique. Ça ne devient pas un truc gratuit, pas cher, voilà, qu'on fournit comme un... Donc ça c'est un deuxième aspect auquel ils sont très... Voilà, qui est plutôt positif. Un autre aspect plutôt positif dans le modèle Spotify, c'est que du coup, c'est un modèle qui pourrait favoriser la découverte. Parce que à ce moment-là, vous pouvez, via vos 12 heures d'écoute, vous pouvez passer d'un titre à l'autre, etc. Et donc, on peut se dire que les gens vont peut-être passer d'un livre à l'autre, piocher, découvrir, aller peut-être un peu plus vers des titres de fond, des titres moins connus, des titres plus courts. Parce que l'alternative au modèle de Spotify, c'est le modèle d'Amazon.
Ça, c'est ce qu'on appelle... Audible, c'est ça ?
Voilà, Audible. Audible, sur le marché du livre audio, c'est en fait le géant du livre audio par abonnement. C'est une filiale d'Amazon. Et il propose une formule d'abonnement qui, en fait, est différente, qui écrase le marché pour l'instant. Et c'est pour ça aussi que Spotify vient un peu perturber les choses et que c'est un mouvement assez intéressant. Le modèle d'Audible, c'est quoi ? C'est pas du créditant. C'est un modèle au jeton. Vous payez 10 euros par mois. Et contre 10 euros, vous avez droit à une sorte de jeton qui vous permet en fait de choisir un livre dans l'offre d'Amazon, un livre audio, et vous pouvez l'écouter, ce livre audio. Donc en fait, c'est pas un modèle, il n'est pas illimité, hein, là, encore une fois, c'est bien limité, et puis vous devez utiliser votre jeton. Dans ce modèle-là, un des effets pervers constatés par les maisons d'édition, c'est que si vous payez votre abonnement 10 euros et que vous pouvez choisir un livre par mois, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez le livre le plus gros, pour rentabiliser vos 10 balles, et puis vous choisissez les livres les plus populaires, les trucs que tout le monde lit, voilà, qui sont mis en avant, qui sont des best-sellers, parce que là aussi vous voulez réduire le plus possible le risque, parce que vous avez le droit qu'un choix par mois. Et bien sur Spotify, voilà, vous avez vos 12 heures d'écoute que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, et du coup, ben, là, ça laisse a priori plus de possibilités à la prise de risque de la part du consommateur.
Ok, mais oui, bah, on parlait hors antenne, enfin avant de commencer cette émission, qu'il y avait La recherche du temps perdu de Proust qui faisait en 24 heures. Alors évidemment, on va plutôt l'écouter sur Audible.
Oui, bah, là, il va falloir acheter beaucoup d'heures d'écoute supplémentaires en tout cas. Je crois que les 12 heures, effectivement, ne suffiront pas sur Spotify.
Voilà, mais quand vous dites que finalement sur Spotify, vu la version proposée donc de créditant, va faire qu'on va découvrir peut-être beaucoup plus, ça reste quand même que les auteurs les plus connus qui vont continuer à générer le plus d'écoute.
Alors, en tout cas, c'est un des effets recherchés et attendus de ce modèle-là. C'est aussi ce qui attire les maisons d'édition, c'est ce qui fait que les maisons d'édition ont plutôt bien accueilli la nouvelle de l'arrivée de Spotify dans le livre audio. Pour le moment, c'est difficile d'évaluer. Effectivement, on a assez peu de recul, vu que c'est une offre qui vient juste d'être lancée. Les retours que j'ai pu recueillir de la part des maisons d'édition sur le terrain, c'est qu'effectivement, pour l'instant, cette promesse n'est pas tenue. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on regarde ce qu'écoutent les gens sur Spotify, ben, ils écoutent la même chose en fait qu'ailleurs. Et du coup, c'est des livres audio qui s'inscrivent dans des genres qui sont très populaires en livres audio. Le développement personnel, le polar, les thrillers, la romance, qui est très populaire tout court d'ailleurs, qui a une grande, grande vague de développement. Donc pour le moment, la hiérarchie des écoutes n'est pas remise en cause par ce modèle-là. En tout cas, c'est les premiers retours, mais il faudra voir ce qui va se passer dans un temps plus long.
Alors là, j'ai la grande question. Je ne sais pas si vous allez savoir y répondre, le oui, oui, ah. C'est, mais qui écoute des livres audio ?
Bah de plus en plus de Belges et de Français écoutent des livres audio. C'est une pratique, alors c'est une pratique qui est assez ancienne, qui passait autrefois par le CD, qui est très développée dans les pays du nord de l'Europe, en Suède, en Allemagne, aux États-Unis. C'est un marché aussi qui est relativement important. Chez nous, c'est toujours resté un marché de niche. Ça reste encore un marché de niche. C'est entre 2 à 3% de l'ensemble du marché du livre. Donc ça pèse pas grand-chose. Pour donner un ordre d'idée, le livre numérique, c'est 10% du marché du livre, donc c'est déjà beaucoup plus. Donc ça reste un marché de niche, mais c'est un marché qui s'est développé avec le numérique, qui a connu vraiment une seconde vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont un peu rencontrés de manière concomitante. Il y a eu la pandémie de Covid. Donc là, il y a eu une explosion des usages pendant le Covid, où des gens, voilà, ont découvert de nouvelles pratiques numériques, dont le livre audio. Il y a eu la généralisation du smartphone, qui fait que les gens ont finalement pris l'habitude d'écouter des contenus sonores via leur smartphone. C'est arrivé avec le podcast, avec les web radios, et eh bien ils ont poursuivi ce type de pratique via le livre audio. Donc ça s'est vraiment démocratisé à cette occasion. Il y a une étude du CNL qui a été faite pour la France. Malheureusement, on ne dispose pas de chiffres pour le marché belge. Il n'y a pas eu d'études qui ont été faites, mais pour la France, l'étude devait dater de 2022. On avait 10 millions de Français qui déclaraient avoir écouté un livre audio au cours des 12 derniers mois. Donc c'est quand même pas rien. Quand on regarde le profil des audiolecteurs, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt des gros lecteurs. Alors, évidemment, quand on est gros lecteur, eh bien, une pratique qui se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est d'avoir des pratiques plus hybrides. On lit du livre papier, on lit du livre numérique, on écoute du livre audio, hein, on diversifie ses pratiques de lecture. Donc on a plus de gros lecteurs, c'est assez logique. On a une tranche d'âge qui est 15-34 ans, mais les nouveaux audiolecteurs sont plutôt dans cette tranche d'âge. Et donc c'est la tranche qu'on va retrouver typiquement sur des plateformes comme Audible ou Spotify. Et puis c'est aujourd'hui 80% du marché, c'est du numérique. 80% du marché, c'est du numérique. Et environ 20% du marché, c'est encore l'achat de CD. Avec aussi, dernière observation, un marché un peu spécifique, un peu à part, mais extrêmement dynamique, qui est le livre audio pour enfants, qui aujourd'hui connaît une explosion avec le phénomène des boîtes à histoire. Vous avez la Tony Box, vous avez la boîte à histoire de Luni, vous avez Merlin. Ce sont des boîtes à histoire qui se sont vendues en dizaines de milliers d'exemplaires, voire en centaines de milliers d'exemplaires, vers lesquelles se tournent les parents parce que ça évite de mettre un smartphone dans la main de son enfant et en même temps de pouvoir écouter des livres audio tout en s'émancipant du format CD qui aujourd'hui est beaucoup moins disponible dans le commerce.
Ce qui est marrant, c'est que quand même, quand j'étais petite, donc dans les années 70, on avait des vinyles avec aussi les. Donc on n'a rien inventé en fait.
Non, bah on poursuit, hein. Je veux dire, c'est un format ancien, c'est un format qui est ancien et qui aujourd'hui effectivement trouve un nouveau souffle avec le numérique et qui tend à se massifier. C'est vraiment un format de livre qui est en pleine croissance, avec aussi peut-être ce qui a changé depuis une petite décennie, c'est une reconnaissance symbolique du livre audio. C'est-à-dire qu'il y a des prix littéraires dédiés au livre audio, c'est un type de contenu qui fait l'objet d'une médiatisation. Il y a des aides publiques maintenant en France, par exemple, qui sont attribuées par le ministère de la Culture pour soutenir des projets de livre audio. Il y a des rencontres professionnelles autour du livre audio. Donc il y a une reconnaissance professionnelle, public, une légitimité culturelle qu'il n'y avait pas il y a 20 ou 30 ans.
Alors donc justement, vous disiez hein, ce côté de livre audio qui était au départ sur CD, aujourd'hui peut-être encore, aujourd'hui on est dans une version numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui tend à se diversifier, enfin à ce qu'il y ait de plus en plus de plateformes qui proposent ces livres, ou c'est très aussi ciblé? Donc on a Amazon, on a Spotify. Est-ce que chaque maison d'édition pourrait imaginer d'avoir sa propre plateforme, par exemple?
Alors, comme je disais, effectivement, 80% du marché environ passe par du numérique. Donc ça veut dire qu'on a quand même aujourd'hui environ 20% du marché, c'est du livre audio physique qui va être en fait vendu en librairie. Les éditeurs, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils maintiennent du livre audio physique, du livre audio sur CD, tout simplement parce qu'ils veulent maintenir le lien avec les libraires. Ils dépendent des libraires aussi pour les autres types de livres, hein, parce que les éditeurs de livres audio sont généralement des éditeurs de livres papier aussi. Donc ils ont besoin de conserver ce lien. Il y a une continuité assez logique. Et continuer aussi à en diffuser en version physique auprès des bibliothèques, où il y a aussi un public qui a besoin d'accéder à des livres audio physiques, des gens qui n'ont pas basculé vers le numérique, qui ont leur lecteur CD, etc. Pour ces 80% de livres audio numériques, la majorité passe par de l'abonnement. Quand c'est de la vente à l'unité, ce sont des livres audio qui sont vendus en fait assez cher, que ce soit en physique ou en numérique. En fait, un livre audio, c'est plusieurs dizaines d'euros, hein, c'est 20-30 euros. Hein,
quand même. J'avais vu entre 15 et 30 euros.
Ouais, c'est ça, c'est assez cher parce qu'en fait, c'est assez cher à produire. Et aussi, ils ne veulent pas cannibaliser les ventes des livres grand format. C'est-à-dire que quand vous avez le dernier Michel Houellebecq qui sort en livre grand format au moment de la rentrée littéraire, vous le sortez en même temps en livre audio et vous le sortez à un prix à peu près similaire pour pas que les gens achètent l'un plutôt que l'autre et essayer de préserver votre modèle économique. Et au niveau des plateformes privilégiées, aujourd'hui Amazon écrase le marché. Mais sinon, vous avez Apple, vous avez Google, vous avez les grandes plateformes, vous avez Storytel qui est une petite plateforme suédoise mais qui est intéressante, vous avez Book d'Oreille également en France. Mais le deuxième gros acteur, c'est Spotify qui vient d'arriver sur le marché.
Et qui déjà prend pas mal de parts ?
On ne sait pas encore parce que là, c'est il y a quelques mois. Alors, il y a eu une première étude qui a été faite aux États-Unis qui permettait de quantifier la croissance du livre audio grâce à Spotify. J'ai plus les chiffres exacts, mais effectivement, je les cite dans le papier de The Conversation, mais qui montre un effet direct positif de l'arrivée de Spotify sur le marché du livre audio, qui montre qu'il y a eu un effet boost vraiment sur le développement de la vente de livres audio aux États-Unis. Ouais.
Alors, ça reste quand même pour les grands éditeurs. Les petites maisons d'édition n'ont pas spécialement les moyens de faire des livres audio. Vous disiez vous-même que c'était assez onéreux pour plein de raisons. Ça laisse du coup de côté quand même pas mal d'auteurs, pas mal de livres, pas mal de maisons d'édition.
Alors effectivement, c'est un modèle économique qui est plutôt l'apanage des grands groupes éditoriaux. Pourquoi ? Parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une activité qui est coûteuse. Comme je le disais, c'est plusieurs milliers d'euros. 3, 10, 15 000 euros. Ça dépend de la complexité du livre audio. Vous avez des livres audio comme Astérix, par exemple, qui a été adapté. Donc la bande dessinée adaptée en livre audio avec beaucoup de bruitage, etc. Et là, tout de suite, ça devient hyper, hyper cher. Donc c'est coûteux. Et deuxièmement, c'est assez risqué parce que, comme je disais, c'est un petit marché. Il est en plein boom, mais c'est 2 à 3% du marché du livre. Donc, vous pouvez amortir vos coûts sur un nombre de consommateurs assez réduit. C'est ce qui fait que aujourd'hui, c'est essentiellement les grosses maisons d'édition qui sont positionnées sur le segment du livre audio. Vous avez, Audiolib, qui est la maison d'édition principale et qui appartient au groupe Hachette et au groupe Albin Michel. Vous avez Lizzy qui appartient au groupe Editis. Vous avez aussi Gallimard qui a sa propre filiale en livre audio, Actes Sud. Donc ils ont tous commencé à se lancer dans le livre audio. L'offre reste quand même limitée. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 titres qui sont disponibles en langue française en livre audio. C'est pas énorme, mais ça s'accélère. On estime qu'on a plus de 2 000 nouveautés qui sont créées chaque année. Donc les petits éditeurs, c'est effectivement plus difficile parce que déjà, ils ont du mal à amortir finalement la production d'un livre papier classique vendu en librairie. Alors en plus, aller se projeter sur des coûts supplémentaires pour le produire en livre audio et essayer de l'amortir ensuite sur ce tout petit marché, c'est effectivement quelque chose qui est aujourd'hui plus difficile. Ouais.
Alors, ce que j'étais étonnée, parce qu'évidemment, j'ai directement été voir sur Spotify comment ça fonctionnait. Et la première chose, j'ai écouté une série de podcasts sur le fascisme. Et donc, c'était l'histoire du fascisme. Donc, en fait, les livres audio, en plus, ça ne concerne pas que la fiction. J'étais très étonné.
Non, bien sûr. Je pense que le plus gros best-seller en livre audio, c'est pas de la fiction, c'est un essai. C'est le Sapiens d'Harari, plus de 100 000 exemplaires. Ça permet de montrer aussi cet exemple que pendant des années, au premier âge, on va dire, du livre audio physique, on avait du mal à avoir des ventes au-dessus de 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, on commence à avoir des best-sellers. On a des ventes à 25 000, à 50 000 exemplaires. Et donc, plus de 100 000 exemplaires pour Sapiens. Ça correspond un certain usage du livre audio documentaire qui apporte des connaissances, qui permet de réactualiser des connaissances, tout en sachant que souvent, ce sont aussi des pratiques d'écoute qui sont des pratiques multitâches. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à comment les gens écoutent du livre audio, mais ça on le retrouve aussi pour le podcast, on se rend compte que c'est beaucoup des gens qui font autre chose en même temps. Ça permet de continuer à lire, en tout cas à écouter des livres, tout en conduisant sa voiture, en faisant son repassage, ou en préparant la cuisine, ce que vous voulez, ou en faisant son footing encore. Donc des pratiques multitâches, et dans ces espaces-là, effectivement, des livres de développement personnel, des livres d'actualité, des documents d'essais, d'histoire, sont assez pertinents. Il y a une forte demande là-dessus.
Et avec Spotify, ce qui se passe, c'est que l'algorithme, le sacro-saint algorithme, en plus, joue avec, avec ce que vous écoutez déjà avant et donc vous propose des trucs très ciblés.
Oui, 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 bien sûr. L'algorithme de recommandation est là pour essayer aussi de faire des liens. Alors, ça fait partie des choses qui ont été mises en avant au moment où cette offre a été lancée par Spotify, de dire ben, peut-être qu'il va y avoir des liens qui vont pouvoir être faits entre vos goûts musicaux et vos goûts de lecture. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il est possible ici de faire des liens. Ils avaient cité à l'époque, ah, vous écoutez Britney Spears, on va vous proposer la biographie de Britney Spears. Bon, c'est des perspectives qui paraissent quand même assez limitées et pas sensationnelles. Peut-être pas besoin d'avoir des algorithmes hyper poussés pour arriver à ce genre de résultat. Mais en tout cas, l'idée effectivement d'une plateforme comme Spotify, comme Amazon, etc., et ça va être aussi de vous cibler en fonction de vos habitudes d'écoute, avec toujours cette question dans quelle mesure l'algorithme vous enferme ou dans quelle mesure l'algorithme vous permet d'aller découvrir d'autres choses, des pépites que vous n'auriez jamais découvert par vous-même.
Alors, peut-être dernière question qui va peut-être en amener d'autres, mais a priori, c'est la dernière question. Est-ce qu'on peut voir dans le développement du livre audio par Spotify une sorte de mainmise de Spotify dans tout ce qui est audio numérique ?
Alors oui, alors mainmise, je sais pas, le mot est fort, mais en tout cas, une volonté de plus se positionner comme une plateforme musicale, mais comme une plateforme sonore. Très clairement, avec le livre audio, le podcast, la musique. Alors la musique reste le levier numéro un, historique, etc. Mais on voit bien une diversification qui va tout azimut, et même maintenant, je dirais sonore, mais peut-être aussi vidéo, puisque maintenant, on commence à avoir aussi des vidéos de podcasts qui circulent.
Donc des clips vidéo avec la musique qu'on écoute.
Exactement. Donc on a une espèce d'ouverture vers d'autres formats vidéo ou d'autres types de contenus sonores, donc qui est intéressante, qui est à suivre, et en tout cas c'est une stratégie qui est plutôt payante parce qu'on voit que la plateforme est encore une fois rentable pour la première fois cette année. Par contre, dans le segment du livre audio, ça reste un acteur relativement modeste en termes de part de marché qui vient de se lancer. Le géant, c'est Amazon.
J'en ai encore une. Et donc, vous voyez comment l'avenir du livre audio, donc avec l'arrivée de Spotify maintenant, mais est-ce que c'est quelque chose qui a un avenir ou ça va rester une consommation de niche ?
C'est assez difficile parce qu'on n'a pas envie de sombrer dans les discours non plus extrêmement euphoriques comme on a eu avec le livre numérique dans les années 2000 où on nous promettait une révolution qui n'a jamais eu lieu. Je disais c'est 10% du marché, donc c'est quand même substantiel. Mais aujourd'hui, tout le monde achète des livres papier, les librairies physiques sont toujours là, etc. On nous avait dit exactement tout l'inverse. On peut s'attendre effectivement à un développement un petit peu similaire au niveau du livre audio, quelque chose qui viendrait prendre des parts de marché 10-15, pourquoi pas 20%, avec peut-être des segments plus spécifiques, comme on a vu pour le numérique. Le numérique a pris des parts de marché, le livre numérique sur des segments, l'édition professionnelle, l'édition universitaire, c'est fortement numérisé, mais l'édition de fiction, beaucoup moins, à part dans certains genres. Ben là, sans doute qu'avec le livre audio, on pourrait avoir des genres qui vont mieux fonctionner, qui vont attirer un public plus spécifique. Je dirais que c'est peut-être c'est cette première perspective d'évolution que je vois, ouais.
Eh bien voilà, ce coup-ci, c'était vraiment la dernière question. Merci Louis Huillard d'être venu dans cette émission dans laquelle on parlait des livres audio, l'arrivée des livres audio sur Spotify. Merci beaucoup de votre venue et à très bientôt.
Merci.